Bonjour à tous.
Et de permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
On est dans la récréation.
On vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
Moi, j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
Pour moi, un projet, c'est un truc bien, mais je ne croyais pas que ça allait être bien comme ça.
Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
En fait, le pari, il est là et il est quand même très ambitieux.
Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
Comment enseigner l'histoire d'un conflit ? Une histoire dans laquelle plusieurs récits historiques et mémoriels entrent en opposition. Le conflit en Irlande du Nord, le conflit israélo-palestinien ou la guerre d'Algérie sont autant de moments historiques qui impliquent des récits divergents, voire même contradictoires. Alors on se doute bien qu'aborder ces sujets complexes et controversés avec des élèves, ça n'est pas simple pour les enseignants d'histoire-géographie. Parallèle Histories propose une démarche clé en main, avec des vidéos explicatives, des corpus documentaires et des scénarios pédagogiques pour étudier ces questions et réaliser des débats en classe. Ce mois-ci, le micro est dans la classe découvre le projet Parallèle Histories, porté par Théo Cohen au lycée Faïs à Villeurbanne. Pendant plusieurs semaines, il a fait travailler ses élèves de terminale spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques sur le conflit qui oppose les Israéliens et les Palestiniens. Les élèves doivent jouer un rôle et défendre le récit d'une des deux parties dans un débat argumenté.
Devons-nous laisser mourir des hommes, des femmes, des enfants, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien ? Devons-nous laisser une troisième intifada éclater ? Devons-nous laisser encore des dirigeants politiques se faire assassiner ? Ou allons-nous dire stop ? Allons-nous mettre un terme, que ce soit des deux côtés, à cette fierté qui ronge ce conflit ? Au nom de la paix, au nom des droits internationaux et au nom de ce que nous avons perdu durant les deux guerres mondiales. Alors oui, mesdames et messieurs, c'est cette question que nous nous posons aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Théo Cohen, je suis enseignant d'histoire-géographie au lycée Faïs à Villeurbanne. On est parti sur un nom britannique, d'autant que l'initiative du projet est britannique. Il est né de la volonté d'un professeur d'histoire à Lancaster, donc au Royaume-Uni, qui s'appelle Michael Davis. Et qui a constaté dans le système éducatif britannique que les élèves ne choisissaient pas, bien souvent, de couvrir ce programme-là, d'apprendre ce conflit israélo-arabe puis israélo-palestinien, parce qu'au Royaume-Uni, ils ont le choix. Et donc, son idée, c'était de proposer une étude qui mette en parallèle des récits mémoriels et qui simplifiait, du coup, la compréhension de ce conflit-là, parce que bien souvent, les élèves ne le choisissaient pas pour son apparente complexité. En France, la situation est tout à fait différente parce que il est proposé dans les programmes scolaires, à la fois dans le tronc commun et dans l'enseignement de spécialité à GGSP. Et en même temps, on est pris face à une situation où bien souvent les élèves expriment un intérêt très fort pour ce conflit-là et ils sont aussi empreints de beaucoup de représentations. Et il y a un décalage entre ce qu'ils pensent savoir, leur positionnement, et finalement... le peu de connaissances dont ils font état jusqu'à la localisation.
On n'a pas forcément traité ça avant.
Ouais, c'est vrai, c'est nouveau, c'est au cœur de l'actualité, elle a raison, donc on se sent concerné.
C'est un sujet qui est tellement complexe et ça fait c'est l'un des conflits les plus anciens. C'est difficile en fait.
Alors, face à toutes ces problématiques, j'étais assez peu satisfait de ce que proposaient les manuels scolaires, pour être tout à fait honnête. Et j'étais très mal à l'aise à l'idée de me positionner par rapport au choix des documents ou à proposer une histoire faussement objectivée, une sorte d'entre-deux un peu tiède, qui ne répondait pas aux attentes des élèves d'engagement, en même temps que ça répondait pas à mes exigences en tant que professeur pour m'extirper de cette relation de simple verticalité, c'est-à-dire de porteur du savoir, et puis les élèves finalement ont à acquérir cette connaissance, surtout pas sur un sujet aussi clivant. Alors l'idée, c'était simplement de se dire, pourquoi pas finalement étudier ce conflit-là à travers un débat. Prenons les choses à bras-le-corps, jouons le jeu à fond des représentations, et en les confrontant, on arrivera à avoir une démarche d'historien. Et je suis tombé complètement par hasard sur l'initiative Parallèle Histories, et donc cette approche-là a été formalisée, matérialisée, développée par Michael Davis. Et donc je lui ai proposé tout simplement de développer cette initiative pour la partie francophone. Donc aujourd'hui, je m'occupe de la rédaction, de la partie francophone du site et de son développement. Et l'idée de la démarche Parallèle Histories, c'est-à-dire de mettre en parallèle des récits mémoriels concurrents, elle s'applique pas seulement au conflit israélo-palestinien et israélo-arabe, bien évidemment, mais à bien d'autres conflits, bien d'autres sujets d'études. Et c'est tout l'objet aujourd'hui des différents projets européens auxquels on participe.
Je m'appelle Cécile Dort, je suis enseignante d'histoire-géographie au Collège du Val-d'Argent à Sainte-Foy-l'Argentière. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été invitée par Monsieur Cohen pour venir voir la réalisation in situ de ce projet qui est Parallèle Historis. En effet, j'ai suivi l'intégralité de la formation qui s'est faite partiellement en distanciel. Ce que je retiens, c'est déjà des connaissances pour moi-même, parce que du coup, si j'ai souhaité m'inscrire à cette formation, c'est déjà parce que c'est un sujet que moi-même je trouve extrêmement complexe. Donc de là à l'aborder avec des élèves, j'ai apprécié déjà qu'on débroussaille un petit peu un certain nombre de choses. Et en plus, Monsieur Cohen nous a fourni un certain nombre de documents qui sont tout à fait pertinents pour mettre en place, justement, pour simplifier et schématiser les choses et puis pour pouvoir les aborder avec des élèves.
Il y a deux types de ressources. La première, ce sont des ressources vidéo, interactives. J'expose dans un premier temps le sujet de débat que je propose d'étudier aux élèves et à leurs enseignants. Et s'ensuit deux autres vidéos qui apparaissent dans le même temps, mises en parallèle. Une vidéo qui expose le récit israélien et une autre qui expose le récit palestinien. Et chacune de ces vidéos est jalonnée de documents qui viennent comme autant d'éléments de preuve pour appuyer le récit de l'un, puis le récit de l'autre. Le deuxième type de ressources qu'on propose, c'est des démarches pédagogiques, des scénarios plutôt pédagogiques pour les enseignants, que ce soit en tronc commun, en spécialité, mais également en section européenne, voire section internationale. Et là, l'idée, c'est de partir non seulement des vidéos, mais d'autres types de fiches élèves, par exemple, ou des fiches professeurs qui accompagnent la production, l'élaboration des argumentaires jusqu'au débat.
Première étape, contextualiser. Là, ce qu'on attend des élèves, c'est savoir se repérer. Mais c'est où Israël et c'est où les territoires palestiniens. Vous pouvez leur poser un certain nombre de questions préparatoires là-dessus, notamment sur les frontières des territoires palestiniens, où se situe la bande de Gaza, où se situe la Cisjordanie, et puis où se situe Jérusalem. Le but, c'est de répondre à la question. La question centrale ici, c'est pourquoi les récits historiques israéliens et palestiniens sont-ils concurrents? Moi, pour mes élèves, je vais leur donner une semaine entière, individuellement ou en groupe s'ils le souhaitent, peu importe, pour répondre à ces questions-là. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que vos élèves se posent la question de savoir, mais si moi j'étais palestinien ou palestinienne, ou si j'étais israélien ou israélienne, finalement, quel jalon je garderais à commémorer? Qu'est-ce qui est important pour mon histoire à moi? Et ça peut être tout à fait subjectif. Je fais appel ici volontairement à leur subjectivité. C'est vraiment là ce qui est important. Je leur fais travailler donc sur la question de la mémoire, on est bien d'accord, sur le lien affectif qu'on peut avoir vis-à-vis de tel ou tel événement. Et donc, vous pouvez avoir des différences entre les élèves. Il n'y a pas de réponse juste là-dessus. On n'attend pas des réponses justes. Ce qui nous intéresse, c'est la réflexion.
Il y a des formations, disons-le, informelles que je propose à partir du site Internet. Si les enseignants, les enseignantes le souhaitent, peuvent s'inscrire et gratuitement, on fait un atelier où je leur expose la démarche et je leur expose les premières pistes d'adaptation pédagogique avec leurs élèves. Ça dure une heure en ligne. La deuxième, un peu plus étoffé, un peu plus développé, se passe à travers le programme académique de formation au sein de l'Académie de Lyon. Les enseignants peuvent s'inscrire justement à une formation dédiée à l'enseignement du conflit israélo-palestinien avec la démarche Parallèle Histories.
J'ai bien détaillé ce qu'on attendait de leur part en expliquant bien que les orateurs devaient se baser impérativement sur les documents qu'on leur a fournis, mais pas d'autres documents. Il n'y a pas de travaux de recherche, je ne les ai pas prévus dans mes étapes. Et ils doivent explicitement les mentionner dans leur argumentaire. Ça fait partie de la force d'un argumentaire. Ce qui différencie un argumentaire d'une opinion, c'est que j'émets une idée, j'affirme une idée, mais surtout, je vais la prouver. On leur demande 2 minutes d'intervention, pas plus. Donc, vous voyez, là aussi, il s'agit d'une étape de préparation en vue du grand oral. Donc chaque orateur ou oratrice expose tour à tour les arguments sans être interrompu.
On va finaliser les arguments aujourd'hui. À la fin de la séance, votre argument doit être prêt. Ça veut dire que ce que vous proposez sur le fond, vous n'aurez plus beaucoup de temps pour le modifier. En tout cas, plus de temps en classe pour le modifier. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que vous commenciez à vous préparer à le porter à l'oral. C'est-à-dire passer de l'écrit à l'oral. Ça, c'est pas une mince affaire. Et donc, ça sera l'objet de la deuxième partie de cette séance aujourd'hui.
Mais en fait, dans le groupe, on s'est réparti les tâches. Le but était de trouver assez d'idées pour défendre Israël.
J'ai dit, je veux dire, les Arabes palestiniens
sont les responsables de l'échec du processus de paix israélo-palestinien.
Du coup, vous avez la même idée encore ?
Bah ouais.
Toi, c'est quoi ?
Moi, j'ai mis les Arabes palestiniens sur l'origine de l'échec du processus de paix israélo-palestinien, car elle montre un désintérêt des propositions israéliennes.
Moi, c'est l'échec du nationalisme arabe a eu pour effet la marginalisation de la question palestinienne.
Mais je pense que c'est tout, hein.
Non, vous justifiez, bon, je suis pas sûr, hein. Ouais. Mais pour moi, mon argument il semble pertinent car il montre bien l'engagement de l'État israélien vers un processus de paix, notamment donc, du coup, en cédant les territoires aux Palestiniens, dont, comme j'ai dit tout à l'heure, le mur des Lamentations. Et enfin, ils le mettent sous le contrôle international. Et en fait, le chef d'État palestinien Mahmoud Abbas montre vraiment un désintérêt face à la proposition israélienne, alors que la Palestine a toujours cherché à obtenir des territoires, ce qui est quand même assez paradoxal. Mm-hmm. Et cela nous montre bien du coup un réel manque d'engagement vers un processus de paix de la part de la Palestine.
L'idée, c'est de proposer un corpus de 10 documents, pas plus, de façon à pouvoir développer, dirons-nous, un argument sur la base de 2 documents différents, si on pensait de cette façon-là, de niveaux d'appréhension et de compréhension différents également, pour pouvoir faire de la différenciation, et de nature différente. Je m'efforce de prendre des sources primaires, par exemple, des sources secondaires, c'est-à-dire soit de type universitaire, soit de type journalistique, soit de type militante également. C'est important pour faire leur exercice d'étude critique des documents. En fait, ce qui sous-tend notre travail de recherche documentaire, c'est cette problématique qui a trait à l'horizontalité de l'information. Aujourd'hui, vous avez un accès à l'information qui est extrêmement élargi, c'est formidable, mais en même temps, ça s'accompagne d'une relativisation de la parole experte. Et pour les élèves, c'est très difficile de distinguer, de faire une hiérarchie, si vous voulez, dans les sources d'information. Et c'est ce que j'essaye de leur faire faire en jouant le jeu à fond, en leur donnant justement une source militante par rapport à une source universitaire, typiquement, et de faire ce jeu de comparaison de la fiabilité. Parce que c'est ça qui va instiller ce réflexe plus tard, beaucoup plus largement, de se poser la question de savoir mais d'où vient ma source et quel niveau de fiabilité je donne.
Du coup, en fait, j'ai une carte, un document. Et en fait, cette carte, elle nous montre que la Palestine, au 1er juin 1948, elle est encerclée par les troupes arabes. Et on voit qu'Israël, elle occupe une infime part de la Palestine, donc ce qui nous montre qu'elle n'a pas entraîné l'exode des Arabes palestiniens, parce qu'on pourrait croire que ce qui a causé la fuite, en quelque sorte, des Arabes palestiniens, c'est le fait que les armées de libération arabe, elles aient encerclé la Palestine, et ça les a effrayés. Du coup, on pourrait croire que c'est pas du tout la faute de l'Israël, et plus des armées arabes qui ont effrayé les Arabes palestiniens.
Mais tu vois bien qu'ici, il est possible que tes camarades, à un moment donné, te disent « Ouais, mais c'est Wikipédia. » Mais ça veut pas dire que tu dois pas l'utiliser, mais tu vois, toutes les paroles ne se valent pas. Donc il faut que tu sois peut-être prête à ça.
Parce que moi, j'avais un bon argument, même si Wikipédia, c'est pas non plus une source très fiable.
Ah bah, c'est un argument énorme, cette carte-là.
Ouais, et du coup, je peux dire que malgré que ce soit une source qui n'est pas non plus très universitaire, qui n'est pas tirée non plus d'un ouvrage très important, bah, la carte, elle illustre parfaitement la situation. Et c'est mieux d'avoir une carte qui illustre comme ça plutôt qu'une carte plus difficile et qui serait moins compréhensible, etc. On peut dire.
C'est très bien. C'est très bien. Alors après... Oui, il ne s'agit pas d'une source universitaire, mais Wikipédia doit faire quand même l'objet de vérification. Elle est peut-être moins fiable qu'une source universitaire directe, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle travestit la réalité.
Exactement, on cherche à savoir qui est le responsable de l'exode des Arabes palestiniens au cours de la première guerre israélo-palestinienne. Et nous, on se met du côté des Palestiniens pour un débat. Il y a certains documents qui étaient compliqués à comprendre, avec il y avait pas mal de vocabulaire, mais après il y en avait des complexes, c'était bien. Mais...
C'est une bonne manière, c'est une bonne façon qu'on soit en groupe pour échanger et s'aider, parce que c'est pas forcément évident de les trouver tout seul, les arguments.
Nous, on est du côté du coup 93, et nous, on est du côté palestinien, en accusant en fait Israël qu'il est bien responsable de l'échec du processus de paix israélo-palestinien.
Mais du coup, c'est ça qui s'est passé en 93. Il y a eu un essai pour la paix, un processus de paix israélo-palestinien.
Donc moi, je pense que à l'heure actuelle, Israël, ils ont même plus envie de faire la paix. En fait, ils cherchent qui cherchent à étendre leur territoire. Parce qu'on voit qu'on voit une montée en puissance des partis de droite et d'extrême droite au pouvoir. Et on sait que l'implication d'idéologies religieuses dans un conflit, ça provoque une guerre absolue. Et une guerre absolue, c'est une guerre d'anéantissement. Et en gros, le fait d'anéantir une population, c'est pas dans l'objectif de faire la paix, quoi. Et on sait que aussi les États-Unis ont déplacé leur ambassade à Jérusalem et c'est revendiqué comme capitale politique par Israël et c'est divisé à l'heure actuelle entre Israël et la Palestine. Donc ça prouve que les États-Unis reconnaissent qu'Israël et que forcément ce plan de paix ne sera pas à notre avantage. Donc je ne vois pas comment on pourrait envisager la paix avec un État qui agit qu'en son propre intérêt. Donc, voilà.
Là, dans ce conflit, on a d'un côté des pays venant de l'Occident, comme l'Europe et l'Amérique, qui choisissent à la place d'autres. Et d'un autre côté, on peut se dire que finalement, les responsables ne sont pas forcément les deux acteurs de ce conflit, mais donc d'autres acteurs, comme les États-Unis, qui sont responsables et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas administré le territoire, ils n'ont pas voulu suivre l'évolution d'Israël. Et donc aujourd'hui, on arrive à un point où on a d'un côté un peuple palestinien qui était déjà présent à ce moment-là, et l'autre un peuple israélien qui a subi, parce qu'ils sont juifs, qui ont subi la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration. Donc à la fois, on peut comprendre ce côté de vouloir ne pas causer du tort envers encore ce peuple. Donc ça, c'est délicat.
En soi, on savait déjà en gros que la guerre existait déjà, mais on n'avait pas beaucoup d'exemples en gros dus à l'exode par exemple. Grâce à ça, on a pu en gros élargir nos connaissances déjà et notre culture générale et du coup à répondre en quelque sorte pourquoi du comment cette guerre a été créée et comment elle a échoué.
Le but, c'est d'éviter de donner un gagnant ou un perdant. Je crois qu'il faut qu'on s'extirpe complètement de ça. Ce qui est important pour eux, c'est la préparation et la capacité à argumenter. De la même façon, à aucun moment je leur demande d'exposer leur opinion propre. Qu'ils puissent la développer par ailleurs, j'espère que ce travail leur permet de développer leur propre opinion. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'argumenter et de jouer un rôle.
Moi, je considère que ne pas laisser le choix, en fait, de choisir son point de vue, en fait, ça peut créer une sorte de barrière, parce qu'en fait, on va défendre un point de vue qui n'est pas forcément celui qu'on défend nous personnellement. Mais bon, j'ai envie de dire, on est à l'école, donc.
Moi, je pense que justement, c'est mieux de faire ainsi, car bien souvent, on a déjà une opinion posée sur beaucoup de conflits et beaucoup de débats. Donc, avoir une position qu'on n'aurait pas forcément prise d'habitude, ça nous permet de mieux élargir notre vision sur la chose étudiée, je pense.
Bah, c'est bien parce qu'on a différents points de vue. Parce que forcément, nous, en fait, on était plutôt du côté palestinien. Et le fait d'être dans un récit israélien nous fait découvrir d'autres points de vue et d'autres justifications.
En fait, ce travail en groupe, pour moi, ça a été important parce qu'on différencie plus facilement la mémoire et l'histoire. On voit que les points de vue ne sont pas les mêmes et c'est très subjectif donner raison à quelqu'un ou à un autre camp. Du coup, c'est bien. Et d'autant plus que le sujet, parfois, comme celui-ci, est imposé, je trouve que certains qui avaient plutôt tendance à défendre l'un ou l'autre et qui se retrouvent finalement à avoir le point de vue du camp adverse, ben, ça aide à changer ses opinions.
L'organisation des propos, c'est quelque chose sur lequel on travaille, je crois, depuis le début de leur carrière scolaire, au moins dans le secondaire. Vous savez, quand on parle de démonstration, quand ils doivent illustrer leurs idées dans un commentaire de document, dans une composition, à l'aide d'exemples précis, soit tirés du cours, soit tirés des documents, finalement, on leur demande exactement la même technique. Donc, c'est pas un exercice qui est hors sol. Il se suit dans la continuité de ce qu'on peut leur proposer en termes de méthode.
Alors d'abord, il y a l'affirmation, puis il y a la preuve. Donc, on doit un peu présenter le document. Il y a la justification, puis la conclusion. On doit juste affirmer l'affirmation, quoi. Puis il y a l'expression personnelle et la conviction.
Après, sur la capacité de conviction et sur l'oralité, c'est peut-être quelque chose qui est légèrement mis de côté. Non, ce qui change véritablement, c'est l'oralité. C'est quelque chose sur lequel je les sens un petit peu plus en besoin, en demande d'accompagnement.
On doit prendre, on va pas ramener ça. On doit prendre une petite feuille avec des petites notes. On va pas prendre tout le truc rédigé, en fait.
Tu as le droit à tout. Tu te rappelles le discours de Dominique de Villepin à l'ONU ? On a le droit aux notes, même au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'imagine que vous, élèves, en formation, vous avez le droit à vos notes également. Et c'est le cas pour le grand oral, bien sûr. Vous aurez le droit à vos notes cette année, sur la première partie. Donc prenez tout ce que vous avez fait sur vous. En revanche, ta question est très intéressante. Est-ce qu'il est utile de lire de A à Z ce que tu as proposé ici ?
Non. J'aimerais revenir sur la checklist préparatoire au débat. Et notamment sur un élément qui peut vous aider à gagner tous les points sur la communication de vos idées. Voilà, c'est diffusé au tableau, vous l'avez sous les yeux normalement. Sur l'affirmation, la preuve et la justification, ainsi que la conclusion, je ne reviens pas forcément là-dessus. Vous avez travaillé sur cette organisation du propos depuis plusieurs semaines. En revanche, j'ai rajouté l'expression personnelle. Vous l'avez vu ici, vers le bas. Et j'ajoute, j'utilise les connecteurs logiques adaptés entre les différentes parties. Je vous invite dès à présent à les indiquer sur votre feuille de prise de notes, à choisir les connecteurs logiques adaptés. Je prends un exemple. Entre, admettons, la justification et la conclusion, c'est-à-dire pour amorcer votre conclusion, quel type de connecteur logique vous pourriez utiliser pour conclure ? Oui.
C'est alors.
C'est alors. Quoi d'autre ? Oui, Ngoma.
En définitive.
En définitive, c'est bien. Quoi d'autre ? Oui.
Par conséquent.
Merci. Par conséquent, Inès, une autre idée ?
Tout ceci nous prouve que...
Tout ceci nous prouve que, pourquoi pas, vous avez saisi le principe. C'est important d'utiliser ces connecteurs logiques parce que quand on va vous écouter, ça permet à celle ou celui qui vous écoute de savoir exactement où vous en êtes, d'accord ? Et vous, de structurer votre propos. Et donc, ça va vous mettre en confiance. Ça, ce sont des éléments de confiance. Dernière chose, la conviction. Ça, c'est pas simple, ça ne s'invente pas non plus. Il s'agit d'un oral. Vous vous rappelez du discours de Dominique de Villepin ? Vous vous rappelez également de l'attitude de Colin Powell, qui essaye de prouver qu'il a raison. Et il fait quoi, Colin Powell ? On avait vu, mais...
Il montre un échantillon.
Ouais, il montre un échantillon. C'est-à-dire qu'il montre sa preuve. Et Dominique de Villepin, dans sa gestuelle, il utilise ses bras. Il utilise des temps de respiration également. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Prenez votre temps pour exposer votre propos. OK ? Ça veut dire... Donc concrètement, et c'est dans la grille d'évaluation, vous avez le droit à vos notes, on vous l'a dit, prenez-les dans la main, mais positionnez-les de façon à ce que le haut de la page se trouve au niveau du menton. Regardez régulièrement, vous avez parfaitement le droit, mais de la même façon, vous regardez votre auditoire. Voilà, sur les indications, ça s'apprend, hein, d'accord ? Vous ne serez pas forcément toutes et tous parfaits au même niveau dès le départ. Le but pour vous, c'est d'être prêt en revanche d'ici au mois de juin pour le grand oral. C'est exactement le même genre de compétences. Faudra savoir déployer.
Sur les 24 inscrits initiaux, seuls 5 enseignants participent au débat en présentiel en décembre 2021. Pour des raisons diverses et variées, mais il est vrai que quand vous apprenez quelque chose à un certain moment de l'année, qui peut être décalé par rapport à votre progression, du fait que les programmes, notamment de la spécialité AGGSP, soient particulièrement chargés, qu'il y ait une difficulté de suivre la progression dans les temps, je pense qu'il y a pas mal de collègues qui peuvent être un petit peu réticents, le mot est un peu fort, mais inquiets à l'idée de devoir lâcher leur progression au bénéfice de cette démarche parallélistorise. Moi, je pense tout le contraire. Je pense qu'en fait, ça permet de gagner du temps, notamment sur le thème numéro 3, histoire et mémoire, où on a déjà travaillé sur la différence entre ces deux notions-là avec les élèves. On gagne beaucoup de temps et ça permet également de travailler la méthodologie de l'épreuve du grand oral. Donc voilà, ce temps qu'on prend maintenant en classe, on le gagne par ailleurs sur la suite de l'année.
Ça a été un véritable tour de force hein, de se retrouver aujourd'hui. Ça fait du bien aussi de voir des élèves d'autres établissements, de prendre cette demi-journée un petit peu en dehors du cours, du temps scolaire, après la crise épidémique qu'on a toutes et tous connue. Alors, pour les horaires, le premier débat se tiendra à 9h15. De 9h15 donc à 10h. Seront opposées les équipes de Blaise Pascal et Faïs 3.
et ça portera sur 1993, sur l'échec du processus de paix.
Donc moi c'est Hervé Lamy, je suis donc enseignant au lycée Blaise Pascal.
Alors comment est-ce que vous êtes rentré, comment est-ce que vous avez connu le dispositif Parallèle Historise?
Alors avec une formation, en fait c'est l'an dernier, on était confinés, on l'a fait donc en distanciel, et donc bah, j'ai été vraiment intéressé par, par son projet. Puis donc là, bah, l'idée c'était de concrétiser un petit peu ce qu'on avait fait nous entre profs, de le voir avec des élèves volontaires.
Il s'agit d'un jeu de rôle, je le répète, ça veut dire que utilisez la première personne du singulier. Je. Impliquez-vous. D'accord ? Vous êtes une délégation diplomatique de la population ou de l'État que vous représentez. Et qu'on se retrouve là, admettons, dans un centre des congrès des Nations Unies. On se met dans ces conditions-là. On va commencer par donc le lycée Faïs.
Donc, mesdames, messieurs, nous sommes la victime de l'histoire, nous, peuple palestinien, et vous, peuple israélien, être les uniques responsables de l'échec du processus de paix depuis 1993.
Je me présente aujourd'hui face à vous pour vous démontrer que l'État d'Israël est responsable de l'échec du processus de paix en 1993. Après l'immigration du peuple juif vers la Palestine, après la création de groupes sionistes qui ont, par des attentats et par une justification ethnique, ont revendiqué leur affiliation religieuse avec le territoire palestinien, après la première tentative de paix en 1993, avec la signature des accords d'Oslo, qui ont fortement divisé la société israélienne, et qui a provoqué l'assassinat du premier ministre de leur État. D'après le journal Homme et Événements, le rabbin, excusez-moi, Yitzhak Rabin, du coup, a été assassiné par un juif. La faute fut mise sur les Palestiniens, de par leur intransigeance, qui n'était bien évidemment qu'un mythe, pour camoufler la responsabilité de l'État d'Israël sur l'échec du processus de paix. Alors voilà, oui, j'affirme, vous êtes responsable de l'échec du processus de paix.
Merci beaucoup, le temps est écoulé. Merci Elias.
Vous savez, la Palestine refuse de reconnaître l'Israël, mais pourquoi? Parce que l'Israël, en fait, c'est la terre promise pour nous. C'est même marqué dans la Bible, vous êtes d'accord? Il y a même les rois, tout ça, donc non, ça va pas. Ensuite, même les grandes puissances reconnaissent l'Israël, même l'ONU, alors pourquoi pas la Palestine? Et enfin, Arafat ne voulait pas de paix. Il refuse la paix alors que l'Israël propose une paix équitable. Et vous savez, il y a le chef du Likoud, le premier ministre de l'Israël, Sharon, qui veut une paix, mais la Palestine ne veut pas de paix. Et il a visité la Palestine. Et soi-disant, pour les Palestiniens, c'est un affront. Mais c'est juste un prétexte pour faire un conflit. Alors que l'Israël propose de nombreux processus de paix, la Palestine fuit et propose que des conflits pour régler ce processus. C'est injuste.
Le corpus documentaire qui porte le récit israélien, le corpus documentaire qui porte le récit palestinien est distribué à chaque groupe, mais je les invite également, une fois qu'ils ont travaillé sur leur propre argumentation, à travailler sur de la contre-argumentation à l'aide des documents des autres. Sur deux éléments. Le premier, ça va être d'évaluer la pertinence d'un document, la fiabilité de notre document, son authenticité également. Donc ils vont avoir une grille d'évaluation, de critères, et à partir de là, ils vont pouvoir déjà commencer à contre-argumenter. Le deuxième point important, c'est le fond. Et le fond, ils sont capables de s'y opposer, de proposer un contre-argumentaire à partir du moment où ils ont argumenté le leur au départ.
Allez, on va passer à la deuxième phase de ce débat-là. Après la présentation de vos discours, le temps de la contre-argumentation libre. Voilà, donc 5 minutes, comme vous voulez.
J'aimerais revenir sur votre argumentaire, mademoiselle. Vous avez dit que Palestine est le seul et unique responsable de l'échec du processus de paix. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît ?
Bah, c'est l'un des seuls, parce que la Palestine ne veut toujours pas avoir d'accord, alors que l'Israël en propose souvent.
Israël propose des accords, propose souvent des accords. Or, par exemple, un accord, c'est la restitution de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Mais la Palestine demande toujours plus. Donc comment vous expliquer que la Palestine demande toujours plus de territoire?
Justement, le passage de souveraineté de la Cisjordanie, j'en ai parlé, et ça montre que vous ne les avez pas respectés puisque vous êtes toujours là-bas. Et en plus, vous pratiquez une politique de colonisation. Du coup, le processus de paix n'est pas respecté.
Je vais intervenir parce que vous avez dit que Israël n'avait pas finalement d'alliés, enfin que personne les soutenait, et que pourtant tout le monde reconnaissait Israël, enfin tous les autres pays. Je pense que vous avez oublié que l'Union européenne et surtout les États-Unis jouent un rôle dramatique dans cette situation,
Et il faut vraiment faire prendre conscience à vous, occupation, qu'il devrait reconnaître l'État de la Palestine comme un État. Enfin, je veux dire, normalement, c'est la Palestine qui est censée vous demander de leur rendre des territoires et pas à vous, sachant que qu'on vous a accueillis en 1948, quand vous êtes venu après la Seconde Guerre mondiale, puisque toutes les sociétés occidentaux vous avaient un peu rejeté. Et voilà.
Pour répondre à votre question sur le rôle défavorable que vous disiez que les États-Unis et l'Europe ont sur vos populations, mais nous tenons à dire quand même que le président Donald Trump a proposé à la Palestine une partition de son territoire que nous avons ici même, où nous avons quand même un territoire palestinien possédant les terres de certaines terres de la Cisjordanie et des territoires de la bande de Gaza qui sont dans sa continuité. Et lorsque le président Trump et notre président Netanyahou avaient présenté ce plan de carte, votre président a jugé cette carte comme, le fait que la Palestine ne soit pas à vendre. Donc là, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort de donation de territoire, de terre, et que c'est plutôt vous qui avez refusé ce que nous vous proposons.
Pour vous, cela reste un mystère, mais je pense que pour chaque État, il est normal d'établir son territoire, de revendiquer des choses qui leur appartiennent. Comme vous, quand vous avez gagné les guerres, vous avez étendu vos territoires, ce qui est tout à fait normal. Alors nous, c'est aussi normal et juste que nous revendiquons nos terres.
Merci beaucoup. Après ces temps-là de débat, les professeurs référents que j'ai listés à côté pour les débats apporteront un petit retour sur les prestations de l'équipe en face. D'accord ? Donc pas de leurs propres élèves, mais des élèves du lycée opposés à eux. Je vous demanderai à ce que ces retours soient le plus courts possible, hein, de façon à pouvoir tenir l'horaire.
Donc Jules, on a entendu contre-argumenter. Donc la contre-argumentation, ça fonctionne. Tu as bien su rebondir sur la critique qui vous avait été faite, en t'appuyant là aussi sur des exemples précis. Donc ça, c'est bien, tu as bien compris ce qu'on pouvait attendre d'une contre-argumentation. Quand tu as pris la parole pour la conclusion, ta voix était posée, une voix agréable, tu ne parlais pas trop vite, vraiment on était dans la conclusion, donc c'était un débit qui était complètement adapté. Alors certes, tu as peut-être lu un peu trop tes notes à mon goût, tu reproches que je te ferais, sinon après tout était pertinent, hein. Tu répondais au sujet, les idées elles étaient claires, bien articulées, les petits mots de liaison on les avait, donc c'est très bien d'utiliser ces petits connecteurs logiques. Le langage, pareil, les phrases étaient bien construites, tu avais une attitude qui était tout à fait correcte vis-à-vis de tes camarades. Donc là aussi, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc voilà comment on travaille les uns avec les autres. Et l'intérêt, c'était de prendre aussi des enseignants du secondaire pour avoir la main sur une meilleure compréhension, appréhension des besoins dans chaque système scolaire. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, à partir du moment où vous ne proposez pas d'adaptation, où vous ne connaissez pas les possibilités d'adaptation en classe, elle ne sera pas exploitée. Et nous, notre intérêt, c'est qu'elle soit exploitée dans les salles de classe, parce qu'on est convaincu qu'elle aide à une meilleure compréhension du monde.
En travaillant les conflits mondiaux à travers le jeu de rôle, la classe devient un espace d'échange entre les élèves, dans l'écoute et le respect de l'autre. La démarche Parallel Histories propose une pratique novatrice pour enseigner les questions controversées d'histoire, comme ici le conflit israélo-palestinien. Les objectifs sont multiples. D'abord, transformer le rôle de l'enseignant. L'idée n'est pas tant d'enseigner l'histoire que d'enseigner comment penser comme des historiens. Ensuite, de protéger l'enseignant des éventuelles accusations de partialité. De mettre l'accent sur l'évaluation critique des documents par les élèves. Et enfin, d'encourager le débat et la discussion active en classe. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Théo Cohen, porteur du projet et responsable de la démarche Parallel Histories, pour la partie francophone de ce projet européen. Merci aux élèves et aux enseignants qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. Merci aussi à Sébastien, Sandra et Diane pour leur aide, et enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt.